parole du jour avec le Père Willem.
Djihadisme et terrorisme, la mort recherchée. Si le concept de califat s'inscrit bien dans un imaginaire religieux musulman, il n'en va pas de même de la mort recherchée. Le salafisme, que l'on accuse de tous les maux, condamne le suicide car celui-ci préempte la décision de Dieu. Le salafisme se soucie avant tout de codifier le comportement de l'individu. Il régule tout, y compris l'usage de la violence. Le salafisme n'est pas dans la quête de la mort, obsédé par le salut. Il a besoin de la vie pour se préparer à rencontrer son Seigneur au terme d'une existence menée selon les règles et les rites. Les frustrations sociales, la contestation et la mobilisation politique ne rendent pas compte non plus d'un terrorisme qui justement tue les politiques avant même que l'on s'interroge sur les causes politiques de la radicalisation. Il n'y a pas de lien direct entre les mobilisations sociales, politiques et religieuses et le passage au terrorisme. Il y a certes un saut qu'on peut expliquer comme le symptôme de tensions sociales et politiques, mais parler de symptômes, c'est justement accepter une approche psychologisante ou métaphysique. Si c'est un symptôme, c'est qu'on a quitté le registre de la rationalité politique. Enfin, d'un point de vue militaire, le terrorisme suicidaire n'est pas efficace. Car s'il y a une rationalité dans le terrorisme simple, celle de la guerre asymétrique et du rapport qualité-prix, où quelques individus déterminés infligent des pertes supérieures un ennemi beaucoup plus puissant, il n'y en a pas dans l'attentat suicide. Le fait que des militants aguerris ne servent qu'une fois n'est pas rationnel. L'effet de terreur n'aimait pas les sociétés occidentales à genoux, il les radicalise à leur tour. Et pour ce terrorisme, aujourd'hui, il y a plus de morts musulmans d'ailleurs qu'occidentaux. La vague de terreur qui a frappé l'Irak, la Turquie, l'Arabie Saoudite, à Médine même, le Yémen et le Bangladesh lors du mois du Ramadan 2016 brouille toutes les cartes. Comment présenter cette offensive comme une lutte contre le néocolonialisme occidental. Il est d'ailleurs probable que c'est l'association systématique avec la mort qui constitue une des clés de la radicalisation actuelle. La dimension nihiliste est centrale. Ce qui fascine, c'est la révolte pure et non pas la construction de l'utopie. La violence n'est pas un moyen, elle est la fin. C'est une violence sans futur, non futur. Si ce n'était pas le cas, elle ne serait qu'une opinion au lieu d'être une norme et un choix délibéré. Bien sûr, cette association n'épuise pas le sujet. On peut tout à fait concevoir que d'autres formes de terrorisme plus rationnelles fasse bientôt leur apparition. On peut aussi supposer que ce terrorisme n'est qu'un moment instable et que la protestation prendra d'autres formes, peut-être plus politiques. Enfin, les raisons de l'association de Daesh sont, quant à elles, bien liées au contexte du Moyen-Orient. Et sa disparition ne changera pas les données géostratégiques de base. Au contraire, elle les aggravera en suscitant un vide où les forces régionales se précipiteront. Daesh ne crée pas le terrorisme, il puise dans un réservoir qui existe déjà. Le génie de Daesh est d'offrir aux volontaires la construction narrative où ils peuvent se réaliser. Tout de même, tant mieux pour Daesh. Si d'autres volontaires pour la mort, qui, psychopathes, suicidaires ou rebelles sans cause, n'ont pas grand-chose à voir avec la cause, ils s'emparent à leur tour d'un scénario qui donne à leur désespoir une dimension planétaire. La plupart des radicaux sont profondément immergés dans la culture jeune contemporaine, non seulement quant aux techniques de communication, mais aussi à travers d'autres dimensions. On le sait, ils vont en boîte, draguent les filles, fument et boivent. Près de 50% d'entre eux en France ont un passé de petits délinquants, chiffre que l'on retrouve en Allemagne et aux États-Unis, comprenant un nombre inattendu d'arrestations pour conduite en état d'ivresse, ce qui est là encore signe du faible degré de pratique religieuse. Leur pratique vestimentaire sont aussi celles des jeunes de leur temps. Les marques, casquettes, capuchons et la barbe aujourd'hui n'est plus un signe de dévotion. D'ailleurs, le port de la barbe est désormais à la mode chez tous les jeunes, chez beaucoup de jeunes. Leurs goûts musicaux sont ceux de leur époque. Ils aiment le rap. Une des figures centrales de la radicalisation, c'est un rappeur allemand, Denis Cuspert. C'est un métis tué en Syrie. Le passage à l'islam se traduit par l'adoption d'un autre genre musical, le nashid, mélopée sans instrument de musique, mais qui, une fois encore, n'a rien de salafiste. Ils sont, bien sûr, amateurs de jeux vidéo et de films américains violents. Quel que soit le moment réel de la radicalisation et quelle que soit la part de dissimulation, cela montre que la radicalisation s'est faite en dehors du milieu social des jeunes radicalisés. Ils ne sont pas l'avant-garde d'une radicalisation communautaire. Ils ne vivaient dans un milieu particulièrement religieux. Leur rapport à la mosquée locale était ambivalent. Soit ils faisaient des apparitions anecdotiques, soit ils s'en étaient fait expulser pour avoir rabroué l'imam local. En un mot, derrière les terroristes, il n'y a aucun mouvement social ou politique qui partagerait leurs idées et leurs projets sans nécessairement approuver leur forme d'action. Il n'y a aucun mouvement religieux qui les aurait d'abord radicalisés religieusement avant qu'ils ne passent au terrorisme. Si radicalisation religieuse il y a, elle ne se fait pas dans le cadre des mosquées salafistes, mais individuellement ou au sein d'un groupe.
Bye. Meine Seele wartet, meine Seele.